mon histoire francophone en Colombie-Britannique, sur les traces de ceux et celles qui ont permis à notre langue et à notre culture de survivre. Merci beaucoup aux élèves de 6e année de Madame Maud, Alexandre, Rory et Julie.
Monseigneur de Mers, nous sommes honorés de vous recevoir dans notre humble couvent.
Je vous en prie, ne faites pas de fla-fla.
Vous prendrez bien du thé, monseigneur. Marie, apportez-nous le thé.
Un thé serait le bienvenu, en effet. Je crois que dans mes voyages, c'est ce qui me manquait le plus. Une bonne tasse comme seule ma maman savait la préparer.
Vous revenez pour de bon dans notre beau pays ou retournez-vous dans les missions?
Eh bien, sans vouloir faire de jeu de mots, je suis ici en mission. C'est pour cela que je vous visite aujourd'hui. Le temps me presse de repartir, alors j'irai droit au but. Je voyage déjà depuis plusieurs mois pour trouver des professeurs pour nos missions sur l'île de Vancouver, et votre congrégation m'avait été recommandée déjà en 1851. Et me voilà, 6 ans plus tard, entre vos murs.
Nous avons lu vos nombreuses lettres. En avez-vous discuté avec notre chapelain, l'abbé Maréchal, et notre évêque, Monseigneur Bourget? Et nous avons reçu la permission d'aller en mission. Nous étions tellement heureuses qu'il nous soit donné d'évangéliser et d'enseigner à ces petits-enfants vivant sans foi ni morale.
Bien, bien. Mais je dois d'abord vous parler de la vie à Fort Victoria. Vous avez une belle maison ici, à Vaudreuil, avec tous les conforts modernes, mais Fort Victoria...
Je sais que vous vivez parmi les infidèles là-bas, Monseigneur. Qu'il n'y a pas beaucoup de vraies maisons, que nos sœurs devront vivre entourées d'une nature hostile avec des animaux sauvages.
Mais il y a plus que cela. On se retrouve en pleine nature. Il y a des bêtes sauvages, des araignées vénéneuses. Vos connaissances en herboristerie vous seront de peu de secours lorsque vous devrez soigner les malades. Il n'y a pas de jardin de potager, et dans le fort même, il n'y a que des hommes.
Nous avons parlé à des parents de ceux qui se sont exilés là-bas. Ils nous ont fait lire leurs lettres. Mais nous, nous avons la foi. La Providence accompagnera nos missionnaires.
Avez-vous déjà des sœurs qui se sont portées volontaires?
Croyez-le ou non, Monseigneur, mais toutes nos sœurs se sont portées volontaires.
Que voulez-vous dire, toutes vos sœurs?
Les 44 sœurs de la congrégation se sont portées volontaires. Mais avec l'aide de l'abbé Maréchal, nous avons choisi 4 des sœurs, parmi les plus fortes physiquement, en bonne santé, mais aussi les plus solides dans leur foi. Celles qui ont été désignées sont toutes nées et ont été élevées à la ferme. Elles savent toutes faire pousser des légumes et égorger un cochon. Aimeriez-vous les rencontrer? Elles nous attendent dans le parloir.
Bien sûr, bien sûr. Je veux m'assurer qu'elles sachent bien dans quelle aventure elles s'engagent.
Marie, faites venir nos premières missionnaires.
Nous sommes au début de 1858. La Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne a été fondée au Québec en 1850 par la bienheureuse sœur Marie-Anne, née Esther Blondin. Depuis ce petit couvent de Vaudreuil, la Congrégation se dévoue à l'enseignement des garçons et des filles, principalement dans les campagnes. Leur but avoué est d'enseigner à autant d'enfants que possible. L'offre de Modeste Demers correspond tout à fait au mandat que se sont donné ces femmes. Ce que dira Demers aux 5 femmes qu'il rencontrera ce jour-là n'est pas pour les effrayer, mais bien pour les assurer qu'elles ne regretteront pas leur décision. L'évêque a vu plusieurs jeunes hommes, frères, prêtres et missionnaires de Touakabi tourner leur capot de bord, c'est-à-dire changer l'idée après quelques mois seulement dans les missions. Devant lui se tient la tête baissée et les mains jointes cinq jeunes femmes, Sœur Marie-Angèle, Sœur Marie-Limina, Sœur Marie-Conception et Sœur Marie-Sacré-Cœur. Et une laïque se joindra à elle, Marie Manville. Il leur dit que Fort Victoria est construit sur la pointe sud de l'île de Vancouver, que le climat est tempéré et que les hivers sont doux, la terre est riche et donne abondance de fruits sauvages. Les employés de la compagnie du Bédisson sont en majorité engagés du Québec, dont plusieurs anciens employés de la défunte du compagnie du Nord-Ouest. La très grande majorité des travailleurs est francophone. Et tous les officiers parlent aussi français. Il ne faudra pas s'offusquer des mœurs. Ces catholiques vivent depuis trop longtemps dans les bois, sans religion, et que si on les laisse faire, ils boivent de l'eau d'esprit, plus que raison qu'ils se bagarrent. D'autres plus sages trouvent femmes à la mode du paix parmi les nombreuses nations avec lesquelles la Bédisson fait affaire. Ils ont des enfants non baptisés. D'ailleurs, le directeur du fort James Douglas s'est uni à une thèse du Manitoba, Amélie Congelier, en 1828. Ce n'est que 10 ans plus tard que la crypte sera unie selon les rites de l'Église de l'Angleterre. Le travail auquel feront face les religieuses qui accepteront le défi sera de taille d'abord le voyage qui sera long. Il faut au moins 6 semaines si la température est clémente. Et finalement, il y a pour elles une petite maison qu'il faudra qu'elles s'arrangent pour remettre en bon état.
Qu'en est-il de l'école, Monseigneur?
La maison est divisée en deux dans son milieu. Un côté pour dormir et l'autre côté pour l'école. Mais ce sera suffisant. Rappelez-vous qu'il y a seulement 150 colons et engagés. C'est pas beaucoup. Plus tard, à l'automne, vous pourrez penser à aller évangéliser et instruire les villages situés plus haut sur l'île. Il y aura peut-être une tâche supplémentaire pour vous. Les soins aux malades. Nous avons un bon médecin, le docteur Sebastian Helmicken. Mais il ne peut pas tout faire. Vous trouverez en lui un homme bon et juste et surtout très qualifié, mais il a besoin d'aide. Avec les mineurs au nord, les canadiens dans les fermes autour du fort, les engagés et les indiens, il a trop de travail.
Comme j'ai dit, Monseigneur, nos sœurs ont été élevées sur des fermes. Elles connaissent toutes un peu l'usage des simples.
Certaines plantes vous seront méconnues. Vous pourrez sans doute apprendre beaucoup des épouses des Canadiens. Elles sont nées pour la plupart sur l'île, et connaissent le bon usage des plantes. Certaines de celles-ci sont toxiques.
Les sœurs font un dernier séjour dans leur famille. Certaines qu'elles ne reverront plus jamais ces visages bien-aimés. Elles sont prêtes. Et à la mi-avril 1858, les 5 femmes accompagnées de Demers et de 4 prêtres se rendent à New York. De là, ce sera par bateau jusqu'à Cuba, puis jusqu'à l'isthme de Panama que le groupe traverse d'est en ouest. Nouveau navire jusqu'en Oregon où elles seront accueillies par une congrégation de sœurs infirmières et rejoindront finalement leur port d'arrivée, Fort Victoria, le 5 juin 1858. Mais dès leur entrée dans le port de Victoria, les voyageurs se rendent compte que la situation n'est pas telle que décrite par Demers. À peine quelques mois plus tôt, ce n'est pas 150 Canadiens qui vivent à Fort Victoria et aux alentours dans des maisons éparses. C'est plus de 20 000 hommes, la plupart des abris de fortune, certains dans des maisons érigées à la hâte, qui sont tous ces hommes? Que viennent-ils faire au Fort Victoria? Tous sans exception sont ici pour la même raison. Tenter de devenir riches grâce à la première des 30 ruées vers l'or des trois colonies. Ils sont prospecteurs, mais aussi marchands, tenanciers de bars et de maisons closes. Figues de joie, charpentières, menuisiers, ils viennent de partout, de Californie, d'Europe, de Chine, de Russie, d'Amérique du Sud. Et maintenant, les francophones sont une très petite minorité de cette tour de Babel, alors qu'auparavant, ils représentaient plus de 60% de la population non indigène à l'île.
C'est notre tour. Tout l'or de Cortés, l'argent de Pissarro ne seront que fadaises demain pour les héros et feront grise mine comparé à l'or, l'or qui dort dans ces mines d'or. Déterrons le trésor, pelle, pioche, remplissons-nous les poches, pique, pioche, creusons la roche à coups de pique, de pioche. Ce feu qui crépite en mille et une trépite me donne la fièvre de l'or. Mon cœur s'illumine, mine, mine. Oh, j'adore cet homme. Je suis le plus fort. Millions de sabots, je suis le roi des conquistadors. J'imagine le drame quand tous ces gentils hommes verront mon pouvoir qui rutile et qui rayonne. J'allumerai des flammes au cœur des gentes dames. Le roi m'honorera et il m'anoblira. Oh, mille, mille, pas poussière sublime, c'est mon or. Pas la farine et tes pépites m'invitent à cette gloire divine qui un jour me destine à porter le sel. Et l'hermine royale, celui qui domine.
Toute ma vie j'ai cherché cette terre de cocagne, aux mille visages sauvages, au gré des paysages. Mille dangers à braver comme on gravit des montagnes. Une terre de mystère, une terre que l'on gagne, comme on prend le cœur d'une femme.
La vallée des cas, femme. La paix n'y sait pas plus fort. Montez-moi cet or, l'or que j'adore. Cette terre est ma terre. Portez vos fardeaux, moi j'ai trop mal mon dos. C'est le mal de l'Eldorado.
Merveilleux décor.
Vaut de l'or.
Mon cœur va plus fort.
C'est un vrai trésor. C'est en mille, 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 mille.
Encore un peu de thé, monsieur, et des scones.
Merci, madame Hilmekin. Après ce voyage, ça ravigote.
Ma fille fait la meilleure confiture de petites fraises.
Et elle a sans doute appris cela de vous, chère Madame Douglas.
Et moi, je l'ai appris de ma mère.
Nous aurons une belle messe demain, pour célébrer votre arrivée, mes sœurs. La Providence nous a protégés tout au long de notre voyage. Nous lui rendrons grâce.
Et quand pourrons-nous commencer les classes?
J'annoncerai en chair que l'école ouvrira ses portes dès le lendemain, lundi.
Oh! Si vous me permettez, Monseigneur, j'irai devant pour préparer la maison pour mes compagnes.
Et si nous y allons toutes?
Nous ne sommes plus très loin, maintenant. C'est à la limite d'un des cimetières indiens. On en trouve partout sur la pointe de l'île.
Est-ce que les enfants auront loin à marcher pour venir à l'école?
Certains vivent tout près. Le palais épiscopal n'est qu'à 10 minutes de marche de votre école. Nous sommes voisins. Ah, nous voilà arrivés.
En fait, la maison que Modeste Mars a achetée de Léon Morel plusieurs années auparavant a été laissée abandonnée depuis. Les sœurs se retroussent les manches pour réparer et aménager les lieux. Et c'est là qu'elles enseigneront dès sur le lendemain. D'abord aux enfants métis, aux Noirs et aux Premières Nations, puis aux enfants de la classe dirigeante. Les sœurs Yat, puis jeunes filles de Douglas, commencent à fréquenter l'école. Certains, comme les orphelins Morel, sont pensionnaires. Les sœurs reçoivent de plus en plus de demandes et elles manquent de place. Elles font donc construire une petite annexe, une chapelle, à l'ancienne maison de Léon Morel, l'annexe terminée en novembre de leur année d'arrivée. La charge de travail des sœurs est très lourde. Elles cuisinent, nettoient, enseignent à des étudiants ayant des habiletés bien différentes et besoins de variété, prennent soin de leurs pensionnaires en tout, continuant à prier et à se plier aux obligations de leur robe. Et comme Demers l'a demandé, elles veillent sur les malades et font parfois même les arrangements funérailles pour les défunts. Et pendant un temps, elles ont même fait le ménage et ont cuisiné chez l'évêque. En octobre 1859, deux autres sœurs viennent se joindre à elles. Sœur Marie-Providence, dont la connaissance de la langue anglaise sera plus utile et que deviennent mère supérieure, et sœur Marie de Bon Secours en 1859. Les sœurs louent un édifice sur Broad Street. En 1871, commençait la construction de l'Académie Sainte-Anne qui s'agrandira au fil des années. Les sœurs de Sainte-Anne se sont démarquées dès le début pour leur philosophie. Elles voulaient donner aux jeunes filles non seulement une éducation qui leur permettrait de trouver un bon parti dans la bonne société, mais elles tentaient de leur donner les outils pour s'ouvrir l'esprit, pour devenir des femmes indépendantes, sachant penser par elles-mêmes. C'est pourquoi, en plus de curriculum ordinaire qui consistait en des cours de mathématiques, de français, d'anglais, de musique, d'art et de travaux d'aiguille, elle incitait les jeunes femmes à s'intéresser aux sciences. Elle ajoute donc à leur horaire des cours de biologie, de chimie, d'histoire et de comptabilité. Les élèves jouent au tennis et des sports d'équipe. La réputation de l'école est connue comme dans le monde entier. On accepte des jeunes filles de partout et toutes doivent apprendre le français et se plier aux rituels catholiques.
Marie-Providence, il faut absolument construire cet hôpital.
Mais avec quel argent?
On fera une levée de fonds. Je connais des gens en politique. On parviendra bien à trouver ce dont nous avons besoin.
Mais un hôpital, c'est pas juste une bâtisse. C'est aussi des infirmières. Nos sœurs, elles sont de bonnes aides-soignantes, mais elles ne sont pas des infirmières.
Alors il faut les former!
Mais attendez, docteur! Bien sûr, lorsque les premières sœurs sont arrivées ici avec l'évêque de Mers, elles se sont arrêtées chez les sœurs de Saint-Vincent-Paul, dont la mission est hospitalière. Je leur écris de ce pas. Je vais leur demander si elles accepteraient de recevoir leur hôpital quelques-unes de nos sœurs afin qu'elles puissent y apprendre les rudiments du métier.
Et moi, pendant ce temps, je vais commencer à parler de notre projet à mes collègues médecins et à mes amis politiques. L'évêque Seghurst se range de mon avis et nous aidera par tous les moyens possibles.
C'est en 1876 que l'hôpital de Saint-Joseph ouvre ses portes. L'hôpital traite toutes sortes de problèmes, depuis les entorses jusqu'aux chirurgies. Et on soigne les patients de tous les milieux. La religion, la race ou la classe sociale n'étaient pas des barrières à l'admission à Saint-Joseph. Un plan d'assurance sans futile même créé. Le tartif était 1 $ par mois ou 100 $ pour un abondement de vie. Des tombolas de vente de pâtisserie, de levée de fonds étaient organisés régulièrement afin que tous puissent bénéficier de services, même les plus pauvres qui ne pouvaient pas payer l'assurance. Comme l'hôpital s'agrandissait, on avait besoin de plus de personnel. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le métier d'infirmier devient une profession féminine. Et en l'an 1900, une école d'infirmières ouvrait ses portes à même l'hôpital Saint-Joseph. En tout, l'école diploma 2104 étudiants au cours de son existence. 2300 membres du personnel de laboratoire et de soutien médical. L'été 1981 fut la fermeture des écoles d'infirmières. Les classes commerciales ont débuté en 1892. Les options sur le marché d'emploi pour les femmes étaient limitées. En plus que l'enseignement et des soins aux malades et les habiletés administratives étaient recherchées. Les élèves étudient la scintographie, la dactylologie, les communications de bureau, ainsi que d'autres disciplines réelles.
De vous aider.
Marguerite, aide-moi, c'est trop pesant, je vais renverser partout.
Attends, je dois d'abord sortir le pain.
Nous avons de plus en plus de paroisiens qui viennent partager la soupe. Il faudra penser à doubler les recettes pour demain. Si cette guerre pouvait finir aussi, ça fait déjà 3 ans que les troupes d'Hitler tiennent en haleine les alliés. Tous ces jeunes hommes qui nous défendent dans les vieux pays, toutes ces bonnes gens d'ici qui sont rationnés, tous ces enfants et ces vieillards qui ont faim.
Nos caves sont presque vides. L'hiver a été long. Nous aurons besoin de plus de légumes. Sœur Sainte-Marguerite, assurez-vous d'engager des jardiniers supplémentaires pour demain. Nous devons ensemencer la plus petite parcelle de terrain de l'académie.
Nos compagnes ont fait la même chose à Providence Farm à Duncan. Elles ont doublé le nombre de jardiniers et ont demandé à 2 fermiers des alentours de défricher plus de terre pour les jardins. Avec l'aide de Saint-Fiacre, patron des jardiniers, nos récoltes seront abondantes et nous pourrons continuer nos œuvres pendant encore longtemps.
Ce dont parle Sœur Sainte-Marguerite en 1942, c'est ce qu'appellerions aujourd'hui une soupe populaire. Le sous-sol de la chapelle de l'Académie reçoit des plus démunis tous les jours afin de les nourrir. Le repas est simple, pain, fruits, légumes du jardin. Quelques rares fois de la viande est ajoutée à la soupe. En ces temps de rationnement, où les Canadiens échangent des coupons distribués par le gouvernement contre de la nourriture, les repas sont maigres. Les élèves sont mis à la contribution. Elles doivent apprendre à partager, à servir, l'humilité et une qualité qui est encouragée. La ferme Providence Farm, à Duncan a été fondée en 1864 dans la vallée du Cowichan. Sur ce terrain de 400 acres fut érigée la première école pour filles de la région. D'abord un pensionnat jusqu'en 1876. L'école fut agrandie pour accueillir les orphelins jusqu'à la héberger à l'Académie Sainte-Anne. Entre 1904 et 1921, on reçut aussi des orphelins, des garçons. Ce n'est pas un de ces pensionnats ayant fait l'objet de la commission Vérité et Réconciliation il y a quelques années. Après plusieurs agrandissements et des changements, finalement, en 1956, l'école est devenue une école de jour pour les garçons et les filles en 1964. L'école fut fermée et déménagée sur le site de l'école Queen of Angels. En 2009, les sœurs de Sainte-Anne ont donné la propriété et Providence Farm à un organisme travaillant avec des adultes et des aînés faisant face à divers défis reliés à la santé mentale. À l'âge où des déficiences intellectuelles, après 100 ans d'existence en 1973, l'Académie Sainte-Anne de Victoria ferme ses portes. Plus de 30 000 élèves, en grande majorité des jeunes filles, se sont assis sur le banc de cette école. La philosophie et ses pionnières de ces femmes ayant consacré leur vie au service des autres et les résultats de leur abnégation se trouvent bien résumés dans cette citation tout simple de Sœur Marie Provenance.
La vie d'une femme n'est pas limitée. La vie sera ce que les femmes veulent qu'elle soit.
Et les Sœurs de Sainte-Anne ont certainement donné des générations des femmes les outils et la confiance dont elles avaient besoin pour se créer une vie où elles occupent la place qu'elles veulent occuper.
Hey, c'est super bon ton travail. Tu vas sans faire une émission de radio ou tu vas juste présenter ton travail écrit dans ton journal de voyage?
Je sais pas encore. Est-ce qu'il manque quelque chose?
Ben, est-ce qu'il y a encore des sœurs de Sainte-Anne en 2037 à Victoria?
Oui, quelques-unes qui sont assez âgées. Mais dans certains pays comme au Cameroun, au Chili et en Haïti, où les vocations sont encore nombreuses, les sœurs de la congrégation de Sainte-Anne sont très actives et continuent de travailler en éducation et à proférer des soins de santé.
Ben, il faudrait peut-être ajouter ça. Je pense que c'est important.
T'as raison, je vais ajouter une ligne ou deux. Merci pour ton aide.
Il n'y a pas de quoi. J'ai presque fini ma recherche. Tu me donneras ton opinion avant que je présente le produit fini au professeur.
Tu peux compter sur moi.
Recherche, texte et montage, Marie-Hélène Bourret. Cette émission est une production de CILS-FM 107,9 au cadran, la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses, et est rendue possible grâce à la participation de Patrimoine canadien.
Entre la rivière et le bois,
entre la rivière et le bois,
il y a une berge.
Lecture des dramatiques de l'Association francophone des Kootenays West, Émilie Saint-Onge, Maxime Daou, Lynn Chartier.
La belle s'est endormie, qui m'a maintenant.
La belle s'est endormie,
ma Louison. Du bois surgit un gros loup gris.
Du bois surgit un gros loup gris.
M'en a pris la plus belle, qui m'a.
La bergerette s'est écriée.
Sainte Vierge Marie, qui m'a maintenant.
Sainte